Avant de poser quelques questions à Wilfried Ligné et Julie Pagis, je voudrais dire combien j'ai été heureux en découvrant à la lecture de leur livre le travail de recherche qu'ils ont fait. Heureux de réaliser que si j'avais poursuivi mes propres recherches sur le sens social des enfants, dont d'autres sollicitations m'avaient détourné il y a déjà plus de 20 ans, eh bien, je n'aurais pas éprouvé aujourd'hui un sentiment de marginalité comme je l'avais éprouvé à ce moment-là. En effet, le champ de la sociologie de l'enfance existait déjà et il commençait même à s'institutionnaliser. Mais il s'était constitué en isolant l'enfance en tant que telle pour étudier la spécificité de la culture infantile. Certes, cette spécificité existe d'une certaine manière. Par exemple, les jeux des enfants comme le jeu de billes leur appartiennent en propre. Ils s'en transmettent eux-mêmes les règles. Mais même s'il leur arrivait de considérer les enfants comme exerçant le métier d'élève, les chercheurs s'inscrivant dans ce champ n'établissaient pas de relation entre cette culture spécifique et le processus de socialisation lui-même socialement différencié, et ne se souciaient donc pas de différencier socialement les enfants dont ils étudiaient les jeux, les rites, les rituels d'anniversaire, etc. Sinon, peut-être par leur genre. Ils ne prenaient pas en considération le fait que les expériences que font les enfants du monde social, lequel toujours leur père existe, et que certes l'institution scolaire tend pour sa part à uniformiser, étaient diverses et dépendaient notamment du quotidien, au quotidien, de la position, voire du cheminement dans cet espace, de la famille dans laquelle ils étaient élevés. En ce qui me concerne, j'avais essayé de montrer, en prenant en compte cette diversité des expériences indiquées par la position socio-professionnelle des parents, que la perception de la structuration de ce monde par des rapports d'inégalité économique, sociale, symbolique, entre les genres et les classes, commençait à un âge précoce, encore bien sûr qu'il y eut des seuils que la prise en compte de l'âge des enfants dans l'analyse permettait de repérer. Mais je pense avoir aussi montré qu'accompagnait cette perception plus ou moins fine celle de leur propre position dans ce monde, si bien que les enfants les moins pourvus de ressources tendaient à ne pas désirer atteindre à l'âge adulte les positions que le monde social ne leur dessinait pas, tandis que les mieux pourvus tendaient au contraire à désirer atteindre ces positions et à considérer que les positions inférieures n'étaient pas faites pour eux. Le phénomène qu'analysent Wilfried Ligné et Julie Pagis est, comme ils l'écrivent, celui de l'appropriation réglée du monde existant au cours de la vie des enfants, la maîtrise de l'ordre social au sein duquel les activités enfantines prennent sens. Ce phénomène, d'une certaine manière, est beaucoup plus étendu. Et ils ont conscience qu'à travers trois études de cas, ils ne l'ont fait que commencer de l'explorer. Ils le font toutefois avec la conviction que l'analyse de ce que les enfants perçoivent du monde social n'a d'intérêt que si on en propose une genèse sociale, laquelle s'opère dans des conditions très inégales. Les perceptions du monde social diffèrent, et il est possible de rendre compte de ces différences par la prise en compte de propriétés sociales des enfants. Outre l'âge, évidemment, ils retiennent le sexe, l'origine sociale, l'origine géographique. Mais si l'enquête en milieu urbain qu'ils ont menée tous deux au cours de deux années scolaires pouvait être étendue à des échantillons plus nombreux, ils auraient certainement pu affiner l'analyse. Je pense par exemple que l'analyse de cas non standards d'enfants appartenant à des familles monoparentales ou en forte mobilité sociale ascendante ou descendante, ou encore, comme cela est peu probable, d'enfants dont les deux parents forment un couple hétérogame, serait particulièrement instructive. Car, en effet, les propriétés sociales des enfants renvoient à des probabilités différentes d'avoir fait telle ou telle expérience, de disposer de telle ou telle ressource, etc. La lecture du livre de Wilfried et Julie m'a conduit à réfléchir à 20 ans de distance sur ce que j'avais commencé d'entreprendre et que, j'avoue, j'avais laissé un peu de côté. Je remercie donc les organisateurs de ce séminaire de m'avoir convié à discuter avec ces chercheurs. Et pour ouvrir cette discussion, je soulignerai d'abord les points importants sur lesquels je crois qu'il y a accord entre nous. Le premier est que l'étude de la jeunesse des perceptions du monde social relève bien de la sociologie, si l'on veut de la psychologie sociale, dans la mesure où il faut prendre en compte la dimension subjective du social, non pas de la psychologie collective. À celle-ci, revient l'étude de leur représentation du monde physique, de la construction de notions abstraites et fondamentales comme le nombre, l'espace et le temps, la maîtrise du raisonnement logique, etc. L'étude sociologique des classements sociaux se soucie moins, quant à elle, de leur justesse logique que de la sociologie, la sociogenèse des dispositions à classer, c'est-à-dire, comme vous l'écrivez, à établir des relations d'ordre entre des entités sociales. Elle se soucie donc de ce que font, de ce que ces classements nous apprennent de l'agent social qui les effectue. Remarquons cependant que la frontière entre psychologie cognitive et sociologie est ici ténue, car la sociogénèse des dispositions va de pair avec la psychogénèse des compétences. Elle en diffère, certes, parce qu'il ne s'agit pas de distinguer des couleurs et des formes, mais des positions sociales, des entités sociales, mais aussi parce qu'elle s'opère dans un contexte socio-historique qui offre, par exemple, un cadre général, non pas aussi parce que son tempo dépend des ressources culturelles plus ou moins riches, données principalement par la famille aux enfants, qui facilitent ou retardent, voire empêchent l'acquisition des instruments intellectuels nécessaires à l'établissement de hiérarchies. Le second point est la motivation théorique des recherches, encore bien modeste comme la mienne, plus ambitieuse à juste titre comme la vôtre. Vous suggérez que votre démarche permet d'arrimer les fondements empiriques élargis et plus réalistes, la sociogénèse de l'habitus. Nous sommes d'accord sur le fait que la question de cette sociogénèse ouvre des perspectives de recherche empirique susceptibles de renforcer la pertinence théorique du concept élaboré par Pierre Bourdieu, tout en le modulant et en l'enrichissant. Je voudrais donc, pour amorcer la discussion, vous interroger sur quelques points de méthode et sur la notion de recyclage symbolique qui sous-tend l'ensemble de votre travail, mais je l'avoue en me référant uniquement à votre première étude de cas, celui de l'appréhension enfantine des classes sociales, puisque vous avez entrepris cette étude en vous référant à celle que j'avais faite il y a 20 ans. L'occasion m'est ainsi donnée de répondre à certaines de vos critiques de mon travail, tout en reconnaissant les grandes avancées que vous avez accomplies par le vôtre dans l'exploration de la sociogénèse de l'habitude, notamment en introduisant cette notion de recyclage symbolique, de schème acquis dans la pratique quotidienne à des domaines plus éloignés de cette pratique. En premier, l'intérêt sociologique d'interroger des enfants en groupe. Cette méthode, que votre travail en collaboration rendait seule possible, est féconde en production de petits faits très significatifs liés à l'interaction in situ, mobilisation de ressources langagières inégales dans les échanges verbaux entre les enfants, mais aussi attitude corporelle, expression du visage dans ces échanges, etc. Et l'analyse s'en enrichit incontestablement. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous écrivez cependant qu'il faut interroger les enfants collectivement parce que les perceptions sociales ne sont pas celles d'un sujet solitaire, qu'elles ne se forment dans les interactions avec les adultes et avec les autres enfants. Ceci est bien sûr pour moi l'évidence même. Mais interroger les enfants individuellement, comme je l'ai fait, relève sans doute d'un protocole plus simple et plus facile à mettre en place par un chercheur travaillant seul sur son terrain, mais ce protocole n'implique nullement l'hypothèse d'une construction solitaire d'une vision du monde. Ce n'est pas parce qu'il répond individuellement dans un contexte d'enquête dans lequel d'ailleurs l'enfant est au moins en interaction avec l'enquêteur qu'il ne peut révéler par ses réponses au moins certains aspects de sa perception de la différenciation sociale. Mais j'avoue ne pas me reconnaître lorsque vous écrivez que j'avais interrogé individuellement les enfants parce que je considérais l'influence des camarades sur le classement d'un enfant comme un biais, qu'il faudrait éliminer au nom de préoccupations d'objectivité pour accéder aux justifications spontanées des classements enfantines. Ai-je jamais moi-même écrit cela ? J'avoue que...
Société contemporaine 1999.
Écoutez, je dois dire que je ne me reconnais pas non plus lorsque vous écrivez que la notion de sens social que je m'étais forcé de définir était appréhendée dans mon enquête comme une capacité individuelle à hiérarchiser de façon plausible certains métiers. Cette capacité, je dirais quant à moi plutôt ce sens en cours de formation, ne concernait pas les métiers en tant que tels, mais à l'évidence le rapport entre classes sociales auxquelles ces métiers renvoient, comme le montrent d'ailleurs les regroupements de métiers que j'ai effectués pour l'analyse statistique, selon qu'ils renvoyaient aux professions libérales et intellectuelles supérieures, aux classes moyennes indépendantes, aux professions intermédiaires, aux ouvriers employés, ainsi que la formulation des consignes de classement. Classés selon différents critères, les agents qui exercent les métiers, plutôt que les métiers eux-mêmes. Il s'agissait de classer les agents qui les exerçaient plutôt que les métiers eux-mêmes. J'insiste donc sur le fait que, quant à moi, je voulais analyser la perception plus ou moins, non pas la perception plus ou moins précise du contenu de ces métiers, mais dans la mesure où l'exercice d'un métier indique une position sociale, d'analyser la perception qu'ont les enfants de la différenciation de ces positions. À vrai dire, quand j'ai commencé cette enquête, je n'avais vraiment pas une claire idée de ce que les enfants pouvaient percevoir des différences sociales. Je me demandais à partir de quel âge ils pouvaient commencer à appréhender quelques indices de cette différenciation. Et donc, mon premier souci était de mettre en évidence qu'ils appréhendaient qu'il y avait des différences. Comment ils le faisaient ? Certes, j'avoue que je n'ai pas poussé l'analyse bien loin, et que tout le travail qu'ont fait Wilfried et Julie montre bien que les recherches sur ce thème doivent être continuées dans cette direction-là. Bien. La méthode clinique que j'avais utilisée me conduisait à ne pas négliger cependant les manières de classer socialement signifiantes, notamment leur évolution en fonction de l'âge. Certes, les petits peuvent donner des réponses directement liées au schème qu'ils transfèrent de la sphère domestique à ce domaine que j'analysais. Vous avez étudié des enfants de classe de CP. Je n'ai pas osé le faire parce que je me disais qu'ils n'étaient pas encore capables de maîtriser suffisamment l'écrit pour que mon protocole puisse être utilisé. Mais en demandant aux enfants de classer les agents exerçant les métiers selon différents critères, après qu'ils eurent ordonné spontanément les métiers, c'est-à-dire plus précisément, en réponse à la consigne que vous avez reprise, de les classer de celui qui te paraît aller au-dessus de tous les autres à celui qui te paraît aller au-dessous de tous les autres, eh bien, et que je leur eus demandé d'ailleurs de dire comment ils s'y étaient pris. Je leur demandais de classer les métiers des messieurs et les métiers des dames, ou les dames et les messieurs exerçant ces métiers, selon différents critères, tels l'intérêt de cet exercice, la considération qui leur revenait du fait de cet exercice. Bien sûr, je n'employais pas ces formulations-là. Leur utilité sociale, l'argent qu'ils gagnaient par leur travail, etc. Mais aussi de ranger les cartes des messieurs depuis le métier que tu préfères jusqu'à celui que tu aimes le moins, de dire s'il y avait des métiers qu'ils aimeraient ou, à l'inverse, qu'ils n'aimeraient pas, et lesquels, lorsqu'ils seraient grands. Tout ceci afin d'analyser les congruences et les divergences entre ces classements relevant de critères différents et de montrer les variations selon la position sociale des enfants, de leur perception engagée de la différenciation de l'espace social. Parce que, en différenciant le monde, certes, comme vous le dites très bien, en classant, les enfants se classent eux-mêmes. Vous avez cependant tout à fait raison de décrire mon travail comme un travail précurseur. Ne m'appuyant sur aucun travail sociologique préalable, eh bien, j'ai bien dû faire ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en évidence qu'il y avait une perception de différence. J'étais, je supposais que De toute manière, les enfants prenaient vaguement conscience de l'existence de ces différences bien avant l'école primaire. Peut-être depuis que leurs parents les conduisaient à l'école maternelle et qu'ils étaient en relation avec les instituteurs et les institutrices, les directeurs, les directrices, etc. Et donc, je m'attelais à résoudre un problème un peu en décalage par rapport à ce qui me préoccupait plus précisément. C'est-à-dire, au fond, ce que les enfants perçoivent des différences sociales dans les interactions entre les sujets sociaux. Voilà. Alors, vous êtes certainement allé beaucoup plus loin dans l'analyse que je l'ai fait, par les questions que vous avez soulevées et en centrant l'analyse sur les manières de classer. Ça, c'est incontestablement un apport très important. La méthode d'enquête que vous avez mise en œuvre contribuait à ce que vous puissiez répondre à vos questionnements. Bien. Vous opposez l'analyse qualitative des manières de classer les métiers, par recyclage symbolique des schèmes de classement intériorisés dans l'univers domestique, scolaire ou dans le groupe des pairs, à la seule analyse quantitative que j'aurais faite de la perception de la distance sociale entre ces métiers et du degré de réalisme social de cette perception. L'analyse des manières de classer peut demeurer qualitative s'il s'agit de mettre en évidence quels sont les schèmes de classement qui sont utilisés et de montrer leur provenance. Donc, comme les schèmes que vous avez rappelés du sale et du propre, du sain et du malsain, qui appartiennent d'abord à l'univers domestique, puis dont vous n'avez pas parlé, est-ce que vous l'avez rencontré? Je me le suis demandé, parce que je l'ai rencontré moi-même dans mon enquête en interrogeant des enfants de classe populaire en banlieue parisienne. C'était le schème du fort et du faible, et qui peut entrer finalement dans une contre-culture scolaire. C'est à l'opposé de l'intelligent et du bête, il y a le fort et le faible, qui peut être le fort à la bagarre ou le fort au foot. Voilà. En donnant des exemples, vous pouvez illustrer ainsi des oppositions entre manières de classer de filles et de garçons, d'enfants d'âge et de genre donné, mais ayant connu des expériences différentes. J'ai moi-même rendu compte par des exemples qu'il pouvait y avoir des manières différentes de hiérarchiser des agents exerçant des métiers différents selon la position sociale des enfants. Non seulement en observant le résultat du classement hiérarchique, mais en observant également ce qu'exprimait l'enfant qui s'attelait à cette tâche. Et alors là, je voudrais faire comme vous et citer l'exemple d'un enfant très, très, très signifiant. Ainsi, ce jeune enfant appartenait à un milieu social très aisé et exprimait, selon mon interprétation, un mépris de classe en classant les messieurs selon l'intérêt de leur métier. Il s'empressa de poser d'abord la carte de l'avocat, puis immédiatement après celle du professeur de collège qu'il colla à la précédente. C'était des cartes séparées les unes des autres qu'on pouvait manipuler. Puis, après plus d'un simple instant, et signifiant ainsi une coupure radicale, en balayant d'un revers dédaigneux de la main les cartes du boucher, du conducteur de bus et du peintre en voiture dans une usine où l'on fait des automobiles, il ne me dit que ça. Ça n'avait même pas la dignité d'être nommé, et encore moins classé. Ça était un tout indifférencié et mis hors jeu, car exclu de ce qui relevait de ses propres intérêts, de ce qu'il valorisait, de ce qui contribuait à forger son identité sociale. Je lui demandais cependant de continuer. Alors, il plaça d'un geste ennuyé, mais nettement au-dessous de la carte du professeur et sur une même ligne horizontale des trois cartes restantes. Voilà une manière de classer bien intéressante pour le sociologue. Elle suggère que les perceptions enfantines du monde social ne se donnent pas seulement à voir dans ce qu'ils disent, mais aussi par ce qu'ils expriment corporellement en le disant, et peut-être mieux encore en les vivant. Elle suggère aussi que cette vie s'accompagne d'émotions d'expressions corporelles, de sentiments sociaux qu'il faudrait essayer de repérer. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais moi-même envisagé de mettre en place un protocole d'enquête dans lequel auraient été filmées des scènes de la vie quotidienne qu'on aurait demandé à des enfants de jouer. Par exemple, un moment qui va acheter son pain chez la boulangère ou qui accompagne son enfant chez le docteur. Mais pour montrer qu'il y a des manières de classer différenciées selon la position sociale, vous m'accorderez qu'il faut comparer les fréquences de ces différentes manières de classer selon les groupes. Vous l'avez d'ailleurs fait en ordonnant les choix. Donc, pour ce qui est des différentes manières de classer, eh bien, on bute là sur une difficulté de codage, parce qu'elles sont si nombreuses, si diversement exprimées, qu'il y a tout un travail à effectuer avant de vouloir quantifier. Je pense cependant que les analyses qualitatives et quantitatives sont complémentaires et que le discours sociologique, qui est toujours interprétatif, gagne à être contraint par les résultats statistiques qu'il se doit de ne pas contredire. Bien sûr, il ne se réduit pas à cela, loin de là. Voilà les quelques remarques critiques que j'avais à vous faire. Je voudrais rajouter une question sur le concept de recyclage symbolique qui sous-tend toutes vos analyses. Pourriez-vous préciser en quoi il différait du concept de transfert, beaucoup utilisé par les psychologues, d'ailleurs. En quoi il permet de mieux donner à voir en quoi consiste la pratique qu'il est censé décrire. L'un et l'autre concept impliquent une part d'inventivité lors du passage d'un domaine de l'expérience à un autre, moins familier. Pourquoi préférer l'un à l'autre ?
Merci beaucoup. Mais juste avant d'en répondre, voir comment on se répartit les réponses, dire que c'est quand même extrêmement émouvant et important pour nous. En plus, on ne savait pas, je ne sais pas où j'avais pas dû bien regarder. J'ai appris vendredi que ça allait être Bernard Sarka qui allait nous discuter. C'est à la fois un plaisir et puis un honneur. Et puis effectivement, en plus, je trouve que ça donne sens quand on a une vision un peu scientifique cumulative. Des sciences sociales, oui, dire que pour nous c'était fondateur votre travail, on est parti sur le terrain en voulant refaire entre guillemets la même chose, et après peut-être pour désamorcer certaines des critiques, je pense qu'il y a aussi un effet où on part sur le terrain pour refaire la même chose, après des fois forcément c'est pas qu'on force un peu le trait, c'est aussi pour avancer, on se dit qu'est-ce qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qu'on peut voir de différent pour avancer. Mais donc vraiment redire à quel point peut-être que dans le livre, on le restitue pas à quel point votre travail a été important pour nous lancer sur le terrain.
Je peux faire une petite remarque là-dessus, c'est que parce que Julie me remontrait des passages en fait du texte, etc.
Je vais aller retrouver votre texte là.
Mais je pense qu'en fait, en réalité, je pense que ce qui se passe là, dont vous parlez, c'est qu'en fait, justement, votre, si j'ai bien compris, votre isolement, je me remets à vous voyez, c'est ça qui m'a. Donc ton isolement de l'époque, en fait, fait que effectivement, le type de lecture que nous on a fait de ton texte, qu'on a lu 15 fois, tu vois. Donc effectivement, toi, on est là, machin. Effectivement, nous, quand tu écris, par exemple, elle manque de réalisme social, et on se dit bon bah là, c'est bon. On le tient. Elle manque de réalisme social. Pour nous, tu vois, c'est vraiment une posture réaliste. Mais effectivement, je pense. Après, moi, je me dis, si on fait la lecture en fait de nos trucs, tous ces moments où quand on écrit, je sais pas, les gens ici écrivent des sciences sociales régulièrement, j'imagine, enfin plus ou moins. Mais bah, vous voyez, quand vous écrivez une phrase, vous dites bon, bah, là, il y a un moment où, par exemple, je sais pas, j'ai dit, par exemple, tant sur le plan pratique que symbolique. Puis je me dis, bah tiens, mais pratique et symbolique, est-ce qu'il y a pas des pratiques qui peuvent être symboliques? Bon, bah, c'est pas grave. Allez, hop, ça voit. C'est le genre de truc qu'on fait quand on écrit. Bon, nous, on essaye de, parce qu'on voilà, avec le temps, on essaye de. Mais malgré tout, il y a des choses qui restent comme ça. Et je pense que c'est aussi des effets qui sont des effets en fait d'une lecture hyper intéressée par ton texte et du coup intéressée, y compris d'ailleurs aussi à produire des décalages. Donc du coup, qui va chercher, parce qu'effectivement, tu as raison, quand on refait la même chose que toi, c'est-à-dire quand on fait de la quantification, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a eu une petite discussion juste avant de venir, parce que tu vois, quand on présente les tableaux dans l'exposé qu'on vient de faire, Julie le fait après avoir parlé justement de la question que tu as laissée quand même relativement de côté, qui est l'intérêt relatif des gens à se classer, cette histoire du gamin qui dit papa là. Or, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est ce que tu as dit un petit peu en disant c'est compliqué l'interprétation du truc quantitatif parce que peuvent se mêler des choses ensemble. C'est-à-dire que l'idée que tu défendais quand même de ce papier d'une différence de, pas de réalisme, parce que c'est quand même ça l'objet de ton papier, c'est-à-dire de dire est-ce que, à quel point on va dire que vraiment il y a des dominants et des dominés suivant les groupes, suivant les différents enfants, les filles et les garçons. Ben, elle peut être aussi à l'œuvre là-dedans, en même temps et de manière inséparable que la question en fait de l'intérêt ou non à reconnaître ce classement-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gamins qui savent, en gros, qui connaissent mais qui ne veulent pas reconnaître, des gamins qui ne connaissent pas et qui veulent... Et en fait, il y a des enfants qui, pour des raisons différentes, en termes de niveau de connaissance et de niveau de reconnaissance de l'ordre social, vont arriver à un classement similaire. Je ne sais pas si vous me suivez, là, je sens... Oui. Mais c'est ça, c'est-à-dire, en gros, de dire... Ben, voilà,
peut-être pour le dire à partir de ce tableau, en gros, dans le travail de Bernard, à la fin, il dit que les garçons classent mieux que les filles. Les classes sup classent mieux que les classes pop et les CM classent mieux, c'est-à-dire de manière plus réaliste, que les CP. Et nous, on se disait, mais est-ce que c'est pas juste classe mieux ? On ne voulait pas rentrer dans cette idée de classe mieux ou classe moins bien. Et là-dedans, dans cette différence-là de sexe, on disait qu'il y avait un intérêt de genre à classer la personne qui s'occupe du ménage moins bas. Là où lui, à la fin, si je ne me trompe,
Bernard dirait plutôt
qu'elles ont moins de compétences à classer l'ordre social que les garçons.
Oui, je ne refuserai pas l'idée que les intérêts à classer sont différents. J'ai d'ailleurs des exemples en ce qui concerne les filles et les garçons. Les filles classent mieux des professions qui d'ailleurs leur sont plus probablement destinées et qui sont en relation avec l'ouverture aux autres. Le professeur de collège, l'infirmière, et incontestablement, il y a des différences liées au sexe.
D'intérêt.
Alors après, il faut des stats pour objectiver. Non, mais ça c'est pour dire que oui, on est évidemment d'accord que et ces deux choses, nous on a plus accentué sur les manières de classer, mais néanmoins, il nous semblait important. On a fait nos petites stats moins poussées d'ailleurs, mais parce que je suis tout à fait d'accord qu'il faut pas les mettre en concurrence ces approches et qu'elles sont dialoguées.
Je veux dire par là que peut-être que pour les plus petits de CP. Ces différents schèmes sont généralement utilisés de la même manière par les enfants, quel que soit leur sexe et quelle que soit leur position sociale.
Ouais.
Mais que pour les plus grands, peut-être que des différences apparaissent selon les sexes et les positions sociales.
C'est vrai que là, on a peu le temps de le présenter.
Pour le faire, il faut bien faire une statistique quand même.
Ouais, ouais. Ben ça, là, on n'a pas eu le temps de le présenter, mais dans le livre, dans le chapitre 2, on montre les classements différenciés des CP et des CM. Parce que des fois, on nous reproche de ne pas être assez piagétien quelque part, alors qu'effectivement, on s'oppose à l'idée qu'il y a des stades par lesquels on passe tous à 6 ans, puis à 8 ans, etc. Mais on ne nie pas le fait que les logiques d'association et de classement sont quand même différenciées entre les petits et les grands, pour le dire comme ça. Et donc, notamment les logiques moins hiérarchiques, on dit qu'il y a des logiques moins hiérarchiques plus par association. Les petits vont mettre ensemble, et ça se retrouve dans les classements, architectes et ouvriers, parce qu'ils vont l'associer au fait qu'ils construisent des maisons. Alors qu'il y aura une logique plus hiérarchique, avec aussi... Et pour faire une liste, il faut des capacités d'abstraction, de classement, qui effectivement sont des capacités qui viennent pas de nulle part et qui se construisent au fil du temps. Mais effectivement, j'ai dit ça au fil du temps pour pas dire juste avec l'âge, parce que ça dépend aussi de dans quel milieu on grandit. Est-ce que les parents nous sollicitent à exprimer des points de vue, etc., à catégoriser les choses.
Ce qui est une manière de dire aussi, parce que par rapport à ce que tu disais, qu'il y a une chose qui nous différencie un peu, mais peut-être c'était lié à ce texte particulier, parce que nous on n'avait que ce texte, c'est qu'effectivement nous on a un petit côté plus impérialiste sociologique, quoi, en fait. C'est-à-dire que dans ton texte, quand même, tu parles beaucoup de Piaget, il y a une dimension plus respect de. Par exemple, ce que tu viens de dire là aussi, il y a la question, les psychologues, il y a la perception du monde matériel. Tu vois, quand on passe à la question du social, en fait, là, c'est les sociologues. Nous, on est quand même moins là-dessus, il faut être honnête. En fait, on est plus sur un truc d'aller plutôt de dire tant qu'on peut faire de la sociologie, on le fait. Et si jamais on allait... Là, je lisais récemment des trucs de neurosciences culturelles qui commencent un petit peu à ressembler à des sciences sociales, sur justement les perceptions variables, en fait, des illusions d'optique, suivant les cultures. En l'occurrence, c'est un peu bourrin, hein, c'est asiatique versus... Bon. On se dit, là, il y a quand même des choses un peu creusées. Donc, c'est vrai que nous, on travaille plus, mais c'est aussi une question pour beaucoup d'époques là-dessus. C'est que nous, on travaille plus dans un cadre dans lequel on se refuse pas d'aller sur des territoires en fait, qui sont pas sociologiques. Et du coup, c'est vrai qu'on fait un peu moins le côté, même dans ce que vient de dire Julie, quand on parle de l'âge, on parle souvent de l'âge comme une accumulation d'expériences particulières ou distinctives. C'est-à-dire, vous voyez, ce qui est un peu différent d'un âge...
C'est pas le développement endogène du
cerveau. Par exemple... Mais ça ne gêne pas, je pense.
C'est bien la sociogénèse, comme je disais, a des tempos différents selon les classes.
C'est-à-dire que là, par exemple, nous, vraiment sur la question d'arriver à classer de manière moins associative mais plus conceptuelle, comme disait Julie là à l'instant, c'est-à-dire moins l'architecte avec l'ouvrier, nous, on le relie à la question en fait, de la pénétration de l'idée de liste et de tableau, aux travaux de Goody, à l'idée de la scolarisation. On utilise aussi Cole et Scribner, qui sont des gens qui ont travaillé, qui ont dit... de Goody qu'en fait c'était pas tant l'écriture comme il le dit mais plutôt à proprement parler la scolarisation. Donc c'est vrai que nous il y a beaucoup de choses qui sont...
Et peut-être pour rebondir en fait c'est pas tant nous, on va pas dire la sociogenèse a des tempos différents selon les classes, on va aller encore plus loin en disant que Piaget lui on est contre la vue finaliste du développement qu'il a, qu'en fait les visions d'une grande partie des psychologues du développement, ils ont une vision finaliste comme si leur but avec des stades où le stade ultime ce serait la pensée opératoire, abstraite, conceptuelle. Or, et là en s'appuyant sur beaucoup d'anthropologie de l'enfance, d'anthropologie linguistique, d'anthropologie du développement, on se dit qu'avoir cette vision finaliste, non, que les buts du développement en fait sont socialement, historiquement situés. Et donc moi je dirais pas la sociogénèse a des tempos différents selon les classes, et qu'elles dépendent aussi jusque quelles sont les fins du développement, quels sont les objectifs pour des parents, qu'est-ce qu'ils veulent développer à leurs enfants. Il y a des choses communes à tous, mais il y a des choses très différenciées. Par exemple, je disais la semaine dernière à nos étudiants qu'on associe, comme si c'était évident, la notion d'intelligence à la vitesse. Ben, en fait, il y a plein d'études, en anthropo souvent, évidemment, qui montrent que demander à quelqu'un, pour vous, c'est quoi l'intelligence ? Ben, y en a qui vont au contraire l'associer à une sagesse lente. Donc voilà, de dire qu'encore plus, c'est pas juste qu'il y aurait en gros des étapes et qui seraient franchies à des âges différents selon les classes sociales. C'est aussi de dire qu'en fait, la finalité
n'est
pas la
même. Non, je dis pas qu'il y a des étapes marquant un cheminement nécessaire. Non, je dis que selon les milieux sociaux, selon les ressources dont disposent les parents, eh bien, en effet, on peut s'orienter dans des directions un peu différentes et à des allures différentes.
Oui.
J'ai peur qu'on...
Transfert.
Un mot sur transfert. Rapidement, nous, on a vraiment énormément hésité. Comme on dit, l'éditeur Jérôme Bourdieu...
Il ne voulait pas recyclage au début. Hein.
Il ne voulait pas trop recyclage non plus. Il voulait plutôt transposition, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'en fait, par rapport à transfert, moi, c'est vrai que transfert, on l'a envisagé, mais vraiment rapidement, parce que ça me semblait quand même renvoyer des choses vraiment différentes. Par contre, sur transposition, et peut-être ça répond un peu quand même sur transfert, ce qui nous intéressait dans le recyclage, c'est le côté seconde vie. Je ne sais pas si on l'a dit, parce qu'on le dit souvent à la présentation, mais c'est cette idée, en gros, il y a une dimension temporelle. En gros, dans transfert, c'est vraiment transfert de chaîne, souvent. Transposition, c'est pareil. Il y a une dimension vraiment structurale. Dans le sens aussi, par exemple, vous voyez, transposition, c'est typiquement dans la sociologie des pratiques culturelles de Bourdieu, l'idée de dire, voilà, on a les goûts qu'on a en matière de cinéma, en fait, sont homologues à ceux qu'on a en matière de... Donc c'est une dimension structurelle, c'est des goûts qu'on a en même temps. Et ce qu'on aimait bien dans recyclage, c'est qu'un recyclage au sens ordinaire, c'est un truc qui servait à un truc qui traîne, en fait.
Et qui après.
Et qui, en gros, on ne sait pas trop quoi en faire, mais en même temps, il a, comme disait le psychologue, il a une affordance particulière, il a... Et puis, en même temps, du coup, il n'est pas utilisable n'importe comment, parce qu'il y a quand même des forces qui sont un peu dedans. Et puis, en plus, sociologiquement, on pourrait dire qu'il a déjà été investi d'une certaine manière, qui a peut-être favorisé certains usages particuliers. Et puis, en même temps, on va en faire quelque chose. Et voilà, cette dimension temporelle, elle nous intéressait particulièrement dans cette... Alors, peut-être qu'avec la notion de transfert, ça serait un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, dans la dimension de transfert, là c'est vrai qu'il y a une dimension un peu temporelle quand même, avec l'idée de transfert par rapport à des expériences infantiles. Mais là, c'est vrai que nous, on s'est beaucoup positionné par rapport à la transposition.
Est-ce que vous avez eu l'idée que peut-être il pouvait y avoir aussi une dimension bricolage ?
Ah oui, ça, on a pensé au bout d'un moment.
Qui c'est qui nous a parlé de ça ? C'est Monique de Saint-Martin qui nous a demandé quelle était la différence avec la notion chez Mauss.
Je pense que justement, la notion par rapport à bricolage, c'est encore le problème du structural. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on le retirera pas. C'est que si vous êtes du côté de la théorie de la pratique et de la sociogenèse, ça va être difficile d'utiliser tous les termes structuralistes. Alors, Bourdieu le fait dans une certaine mesure, il utilise le terme structuraliste, mais parce que... notamment quand il n'est pas en train de faire de la sociogenèse, quoi. Là, si vous voulez, bricolage, moi, je veux bien, mais bricolage, c'est justement, en fait, justement des compositions, en fait, de structures, en fait. C'est des compositions de structure. Là, nous, on ne parle pas de composition de structure ou d'assemblage de structure, en fait. On parle justement d'une même structure, mais qui a complété, qui va être insérée dans d'autres aspects de pratique. Donc il y a une dimension structurelle, notamment quand on parle de Schème, mais elle nous intéresse, et c'est pour ça que d'ailleurs, en plus de ça, là on insiste sur Schème, mais c'est des choses sur lesquelles on voudrait avancer aussi. Parce que par exemple, vous voyez, moi je suis en train de travailler sur des choses qui paraissent un peu lointaines, mais sur la question de l'appropriation des choses chez les enfants, bon, ils vont réutiliser par exemple des choses qu'ils ont entendues, des expressions idiomatiques, pour valoriser les biens qu'ils ont entre les mains, qu'ils ont entendu dans le cadre de leur socialisation immédiate dans la crèche, mais que je peux voir ethnographiquement. Par exemple, il n'y a plus de place. Te mets pas là, il n'y a plus de place. Ça, c'est une injonction éducative. Devient, il n'y a plus de place, en fait, il n'y a plus de place. On s'assied sur un truc, puis on dit, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et ça veut dire, en fait, vous voyez, il n'y a qu'une place. Et comme disent les économistes, c'est un bien rival, et c'est moi qui l'ai eu. Voilà. Et donc, ces logiques-là, ça pourrait être vu un petit peu comme des logiques de recyclage, qu'on a la même idée de. Et en même temps, c'est pas un recyclage d'un schème. Et je pense que ça, c'est aussi une raison qui fait que, par exemple, bricolage, ça serait trop réduit pour nos trucs.
D'accord.
Bref.